campus.
Vous n'écoutez pas de musique chez vous?
Ah non, plus du tout, non. On a des concerts de silence, nous.
Vite à cette bêtasse, ça termine sa gueule. Dis-le lui toi-même, connard. Non, qu'est-ce que je te dis, me traite pas de con.
Radio Campus.
Le style est efficace, dirais-je.
88.3.
La merde. Fermez-la tous.
Brandy, Camélia,
Dorian,
Elia,
Fatouata,
Kenzo,
Mariama,
Noah,
Leskine,
Robespierre,
Angela.
La jeunesse est libre.
En direct du Festival d'Avignon.
Les micros.
Ils sont à qui?
Ils sont à nous.
À qui?
À nous.
À la jeunesse et les micros.
Bonsoir à tous.
On est en direct à Avignon pour cette troisième émission
de À la jeunesse les micros.
On est en direct au Cloître Saint-Louis de 19h jusqu'à 20h.
Est-ce que vous êtes chaud?
Oui.
J'ai pas entendu, est-ce que vous êtes chaud?
Oui.
Et bah gardez la même énergie parce que je vais vous demander de rester attentif et de fermer les yeux. À tous les spectateurs qui sont sur place et pour tous les auditeurs qui sont chez eux, ils nous verront pas. Je vais vous raconter mon histoire.
Fermez les yeux. Je surveille. Hein.
Je vais d'abord regarder s'il y en a pas un qui garde les yeux.
Il y en a qui ferment pas les yeux. Madame, là-bas.
Il y en a plein qui ferment les yeux.
Attention, on ferme les yeux.
C'est bon, vous êtes tous dans une bonne ambiance calme. C'était l'été à Cannes. J'étais parti en vacances sans mes parents, avec des amis pour la première fois. On était arrivé à la plage vers midi. J'avais ce sentiment de liberté, comme si cette journée d'été était éternelle. Les seules fois où je m'étais baigné à la mer, c'était en Guadeloupe, avec mes parents quand j'avais 8 ans. Et je me souviens encore que mon père me criait « Ne va pas trop loin, Dorian !» Mais ce jour-là, à Cannes, j'étais avec mes amis et je me sentais libre. J'avais l'impression que le monde m'appartenait sans mes parents pour me surveiller et me dire quoi faire. Mes amis étaient de bons nageurs, moi j'avais juste les bases. La mer était agitée ce jour-là, et dans ce genre de moment, les bases, ça ne suffit pas. On a plongé dans l'eau tous les quatre, mes amis se sont vite éloignés, et moi j'ai voulu les suivre à mes risques et périls. Il y avait beaucoup de courant, j'entendais une voix me dire « Tu vas trop loin, Dorian !» Mais c'était trop tard. J'ai commencé à lutter contre les vagues, j'avalais de l'eau, je respirais de l'eau, je crachais de l'eau, et je me suis mis à paniquer, et j'étais épuisé. Mes forces m'avaient abandonné et j'ai juste eu le temps de crier à l'aide. À ce moment-là, j'ai vu ma vie défiler. Ça peut sembler cliché, mais j'ai vraiment vu ma vie défiler. Et si c'était ça mon destin, mourir noyé, est-ce que j'avais vraiment vécu ma vie? Est-ce que ma vie avait eu du sens? Puisque je vous parle aujourd'hui, vous vous doutez que ça s'est bien fini pour moi. Mais cette première fois, la première fois où je me suis noyé, ça a soulevé plein de questions. C'est comme si la mer m'avait pris mon insouciance et pour la première fois, je me suis senti responsable de ma propre vie.
C'est bon, ils peuvent ouvrir les yeux, Dorian.
Vous pouvez vous réveiller, vous pouvez ouvrir les yeux et surtout vos oreilles.
Du coup, on vous a invité à ouvrir les yeux pour parler de quelque chose de beaucoup plus positif que sa noyade. Franchement, nous a plombé l'ambiance. Depuis l'ANG, c'est la première fois pour nous tous. Fatou, Robespierre, Nesrine, Elia, Noah, Kenzo, Tanzila, Brangi, Mariama, Rafi, Dorian et Camélia, du coup moi, qu'on anime une émission de radio en direct à Avignon, au Cloître Saint-Louis, de 19h à 20h. Ce soir, l'émission s'appelle « À force de rêver tout bas » et nous allons parler des premières fois. La première fois qu'on passe un cap, qu'on ressent une émotion, qu'on rencontre de nouvelles personnes. Une première fois, elle peut nous marquer à vie comme on peut l'oublier avec... Attendez, j'ai un bug. Et d'autres disparaissent de nos mémoires peu à peu. Aujourd'hui, on a envie d'innover. On va s'asseoir autour d'une table avec nos invités, David Geselson, metteur en scène de Néandertal, et Pauline Bale, metteuse en scène de Écrire sa vie. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous invite à écouter tout de suite un micro une micro-enquête où nous sommes allés à la rencontre des Avignonnais. Merci.
Si je vous dis une première fois qui vous a marqué, vous pensez à quoi ?
J'ai pas d'idée. J'ai plein de premières fois.
On n'a pas une histoire de chevaux ?
Non. Mais j'aime les premières fois. J'aime être épaté.
Je pense que c'était ma première fois théâtrale, je pense, un truc comme ça, quand j'étais plus petite.
Une première fois qui m'a plu, je crois que c'est la naissance de mon fils.
Quand j'ai rencontré la première fois Dieu, il m'a transformée, il m'a changée, il m'a façonnée.
Ben, la première fois où j'ai fait du vélo, j'avais peur de tomber, mais c'était bien.
Alors, on pense au sexe, évidemment, mais si la première fois n'était pas la meilleure.
Moi, je me rappelle de la première fois où j'ai fumé un joint. Et ben, j'étais tout emmêlée. Et je pensais pas que mon corps pouvait ressentir ça et avoir une perception de la réalité aussi exubérante.
C'est très personnel, ça. J'ai pas envie de répondre.
Celle qui m'est venue là, c'est la première fois que j'ai conduit un camion. Donc ça a été extraordinaire. C'était mon rêve et je vais réaliser ce rêve. Et je me souviens encore de la sensation quand je suis montée dans le camion, que j'ai fait ma première manœuvre.
La première fois, il y a 2 mois à peu près, que j'ai ressenti que j'étais vieille. C'était la première fois, parce que j'étais fatiguée, c'était la première fois que je ressentais ça. J'avais de la chance, j'avais déjà plus de 80 ans. J'aurais pu le sentir avant.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la meilleure émission du monde qui est À la jeunesse les micros. Alors nous étions justement en train de discuter sur les premières fois, nous écoutions justement Nesrine qui nous racontait sa première fois en manifestation. Désolé d'avoir coupé la parole Nesrine, t'as la parole.
Alors je vais vous raconter la première fois où j'ai failli brûler. Alors oui, c'est pas
en
très
manifestation,
positif.
En manifestation.
C'est pas très positif, c'était l'époque des... J'arrive plus à parler, désolée. L'époque des gilets jaunes. Alors, j'étais partie à mon lycée. Tous les lycées faisaient des blocages. Enfin, voilà. Et on s'est rejoint avec 2 lycées pour bloquer toute la ville de Carpentras. Et ça fait que on m'a mis au milieu pour allumer un feu de poubelle. Alors, je sais pas pourquoi on m'a mis au milieu, mais j'étais au milieu. Et du coup, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Et le problème, c'est que le moment où j'ai allumé la poubelle, j'ai allumé mon bras. Et du coup, j'ai pas vu que j'étais en train de brûler. Merci à mon ami qui est venu me sauver. Il m'a vite enlevé le feu sur moi. Il m'a enlevé vite mes affaires. Et ça fait que aujourd'hui, je suis vivante. Hein, je suis devant vous. J'ai pas de brûlure. Tout va bien. Mais du coup, j'ai failli brûler devant au moins 1000 personnes.
C'était pour la bonne cause.
Ouais, c'est pour la bonne cause. C'était pour sauver tout le monde.
Nisrine, justement, ta première manifestation, ça me rappelle mon premier gaz lacrymogène en pleine face. Je sais que ça me fait des mauvais flashbacks, etc. Mais cette chanson-là, je l'oublierai jamais parce que je ne sais pas ce qui brûlait, si c'était mes yeux, mes oreilles, ma peau. Je me suis dit, c'est bon, je vais me liquidifier devant tout le monde. Qui me ramène chez moi ? Qu'est-ce que je fais ? Et je me rappelle que tout le monde est venu m'asperger de lait. Et donc, je suis rentrée remplie, imbibée de lait chez moi, dans les transports.
Et bien, justement, cette histoire me rappelle aussi une histoire à moi, ma première fois dans une manifestation. En fait, j'ai été emmenée par des amis qui m'avaient dit de venir avec eux parce qu'ils pensaient que ça allait être drôle. Donc, je ne sais pas si vous vous racontez de l'histoire du jeune Théo. Ça avait été très médiatisé pendant un moment. La manifestation s'est passée justement en bas de chez moi, devant le tribunal de Bobigny. J'habitais pas très loin. Et des amis à moi sont venus devant chez moi. Ils m'ont dit, oui, Robespierre, viens, on va assister à la manifestation. Ça va être bien, il faut défendre Théo. Donc j'ai dit oui. Et je suis descendu avec eux. Et j'avais un ami à moi qui s'appelait Kimo. Et c'était quelqu'un de vraiment, vraiment très agité. Quand il s'agissait de bagarre ou de n'importe quoi, il était toujours le premier. Et je me rappelle, on était arrivés. Et devant nous, il y avait des rappeurs, il y avait des acteurs, il y avait plein de gens qui étaient là et qui essayaient de calmer le jeu. Mais mon ami, justement, je ne sais pas si vous le savez, mais Kimo, c'est lui qui a commencé. Il a pris un caillou, et il a jeté sur un policier. Le policier, pour lui répondre, il a mis un coup de pied sur un manifestant innocent qui passait par là. Et directement, tout est parti dans du n'importe quoi. Les policiers ont commencé à nous gazer. Tout le monde s'est dispersé. Et après, on est tous revenus, et les policiers. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était une forme d'euphorie. Ce phénomène qui nous fait nous sentir forts. Et j'avais l'impression que c'était que comme ça qu'on pouvait vraiment résister. Je ne sais pas si cela vous a fait ça.
Ça me l'a fait le jour où justement où j'ai brûlé et tout ça, okay. Que j'ai parti faire des bêtises. J'avais l'impression d'avoir le pouvoir.
Bah justement, nous avons Esther Aide qui est avec nous. Vous avez une histoire sur votre première fois dans une association, c'est bien ça ?
Ouais, dans un collectif.
Dans un collectif.
Bonjour. Donc moi, je vais vous raconter ma première fois de désobéissance civile, en fait. Donc, en décembre 2022, j'ai fait une action avec le collectif Dernière Rénovation. Donc, le but, c'était, après une série de formations, de partir faire un blocage de périph'. Donc, c'est un peu le classico de chez Dernière Rénovation. Où, en gros, on était 7, on va s'asseoir pour bloquer la voie d'un périphérique. Et, globalement, on attend jusqu'à ce qu'on vienne nous déloger. L'idée de Dernière Rénovation, c'est qu'ils demandent la rénovation thermique du parc immobilier français d'ici peu de temps.
Ce qui et ça s'est passé où ?
Ça s'est passé en région parisienne. J'ai plus le nom du bled en tête, mais... Et donc voilà, l'idée c'était de bloquer, et évidemment c'est un moment hyper challengeant et stressant parce que on bloque des personnes qui n'ont strictement rien demandé, et c'est compliqué de se positionner face à ces gens-là. Donc on a quelqu'un qui vient désescalader ce moment-là, et c'est voilà, un gros moment de pression, mais c'est une réponse qui est imparfaite, mais qui est une espèce de tentative après avoir essayé les manifestations, les petites actions du quotidien, un moment où on ne sait plus quoi faire pour l'écologie et où juste on tente un truc qui n'est pas parfait, mais on le tente. Et donc le but, c'est de rester le plus longtemps possible jusqu'à ce que les flics viennent nous déloger globalement. Et à ce moment-là, c'est une action non violente, donc nous, on ne s'oppose pas à la police, mais on ne leur facilite pas la tâche non plus, donc on ne se lève pas, on se laisse porter comme des chamallows jusque dans une voiture, et de là, on part en garde à vue finalement, parce qu'on fait quand même un délit, hein, voilà, ce n'est pas légal. Mais on savait qu'on allait finir en garde à vue, on a eu une déformation là-dessus également, et donc on se retrouve en garde à vue pendant 6 heures, où on choisit, parce qu'on connaît nos droits, de garder le silence. C'est pas notre but, c'est pas d'expliquer aux flics à ce moment-là ce qu'on fait. Et on reste 6 heures, ce qui est pas si pire en soi, vu qu'on aurait pu rester jusqu'à 24 heures. Donc on n'y passe pas la nuit, on est plusieurs en cellule, on a le temps de papoter. Honnêtement, vu qu'on était préparé à ça, c'est juste le moment où on décompresse un peu de toute l'adrénaline de ce qu'on vient de faire.
Vous vous êtes senti, on va dire, soutenu à ce moment-là, quand vous étiez dans la cellule avec...
Soutenu, il y a une espèce de cohésion qui se forme avec les gens avec qui on a fait, ça c'est sûr, parce que d'autant qu'on ne les connaît pas de base. Maintenant, soutenu par la police, évidemment non, hein. sans grande surprise. Et de là, on passe les interrogatoires, on ne répond pas, et on sort au bout de 6 heures avec un rappel à la loi, une contribution citoyenne, donc c'est une espèce d'amende à payer. Et on a une équipe de backup qui vient nous chercher pour voir si tout va bien, on fait un débrief émotionnel et on rentre chez nous. Et voilà.
Je crois que Noah aussi, il a une expérience en garde à vue qui peut te partager, et à nous tous d'ailleurs.
Ouais, c'est ton histoire, Esther, ça me... Excuse-moi, je me permets de te tutoyer.
Ouais, aucun problème.
Ça me rappelle ma première garde à vue. Bon, ça va être simple. J'étais avec un proche à moi, et ce proche n'avait pas envie de payer les tickets de train. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a sauté des rails de train pour atterrir sur un quai en face, qui était le quai qu'on devait prendre pour partir à Lyon. Et arrivé sur ce quai, un employé fou furieux de la SNCF est venu nous voir en nous disant « Mais vous êtes fous, vous avez bloqué les trains aux alentours et tout ça. » Et il y a des flics en civil après qui sont venus nous embarquer. Arrivé en garde à vue, ils m'ont mis dans la même cellule que ce proche, parce que c'est un proche proche à moi. Et à côté de nous, dans l'autre cellule, il y avait un mec qui faisait le loup. Le loup, comme ça, c'est le loup. Et du coup, mon proche à moi, qui est un peu fêlé, un peu comme moi, il s'est mis à faire le loup aussi, et je pense que c'était la garde à vue la plus drôle de ma vie.
Ok.
À la jeunesse, les micros !
En direct du Festival d'Avignon.
David Jezelson, metteur en scène de Néandertal, vient nous rejoindre.
Il s'installe tout doucement.
Bonjour David.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous avez une première fois à nous raconter?
On l'a pris de court là.
Prenez votre temps David.
J'ai pas fait de garde à vue encore.
C'est pas obligé.
Non, j'ai plein de petits. Non, si, j'ai une première fois où je me suis fait gazer. Si. C'était une preuve. Je vais rester la thématique. J'ai d'autres premières fois plus rigolotes, mais c'était à Paris, au centre Pompidou. Et il y avait eu une manif et je m'étais fait vraiment pris par les pieds et les jambes, emmené par les CRS. J'étais de passage et j'ai été vraiment pris par. J'ai été pris vraiment. J'avais rien demandé à personne. J'étais allé voir ce qui se passait et je me suis retrouvé dans un espèce de mouvement. Et j'étais dans le commissariat du 12e, j'y ai passé vraiment 8 heures et c'était vraiment pas rigolo.
Vraiment mauvais moment, mauvais endroit.
Voilà, j'avais d'autres premières fois plus rigolotes, mais là je...
Oui, et puis on voit que vous avez passé 8 heures quand même, alors que moi qui bloque littéralement un périph, j'y passe 6 heures. Donc il faut voir vraiment comment les policiers choisissent de manière hyper arbitraire qui va passer 24, qui va passer
8 heures. C'est parce que je suis chauve, je pense que c'est
ouais, je pense que c'est lié en effet.
C'est lié à la calvitie, je pense que c'est exclusivement à cause de ça.
Eh bien justement, David Jezelson, nous avons deux... jeunes personnes qui font partie de la web télé du Festival d'Avignon qui sont là et qui ont vu votre spectacle et qui aimeraient vous donner leurs premières impressions sur le spectacle qui est Néandertal.
Donc moi j'ai vraiment adoré votre spectacle. J'ai beaucoup aimé la première partie en lien avec la guerre Israël et Palestine. Et ça m'a provoqué énormément d'émotions et j'ai vraiment énormément apprécié. Mais j'ai un peu moins apprécié la dernière partie où la dame, elle perd un peu la tête parce que j'ai pas bien compris. Pour moi, ça avait pas trop de sens avec le spectacle. Donc voilà.
Et j'ai adoré aussi. Donc tout, surtout la mise en scène, j'ai adoré comment la scène était faite avec même le rapport avec l'histoire, tout était très bien. Et j'ai tout autant aimé la partie avec Adèle, donc c'est un personnage qui perd la tête. Et donc c'était très oppressant, mais j'ai tout autant aimé et tout le spectacle était très bien et très mis en scène.
Merci Virgile, merci Siane. À moi à dire à ces deux jeunes personnes.
Bah non, mais c'est super que vous ayez pas le même avis. Sinon on s'ennuie.
C'est ça l'important.
C'est cool. Je pense que c'est bien si chacun peut avoir son point de vue et aimer certaines choses et pas d'autres. Ça veut dire que c'est riche. Je me dis ça. Donc c'est cool.
Et du coup, moi aussi j'avais un avis sur votre pièce. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé parce que c'est la première fois qu'une pièce me procure autant d'émotions. J'avais l'impression d'être dedans. Le bruit quand il y a des conflits de forts, quoi, de violence, même les différents personnages, même l'espèce de bloc là où il y a les scientifiques qui rentrent dedans pour faire des analyses qui s'avancent, après qui reculent. Vraiment, même à la fin, j'étais déboussolée par les émotions que j'ai ressenties pendant la pièce et ça a duré pas longtemps. Moi, je me suis dit au début 3 heures. Oh là là, 3 heures assises.
2 heures et demie, pas 3 heures.
Oui, 2 heures et demie. Oh là là, je me suis dit 2 heures et demie, ça va être long. Même dans ma tête, je me suis dit 3 heures, quoi, ça va être fou. Mais finalement, ça a passé très très vite et vraiment, j'ai beaucoup apprécié.
Merci beaucoup.
Moi aussi, j'ai vu votre pièce et il y a deux choses que je voulais dire, c'est que j'ai trouvé ça drôle. De distribuer des cailloux. Et le deuxième truc, puisque moi j'aime bien les arts plastiques dont je dessine, c'était aussi dans le petit laboratoire construit en préfabriqué. En fonction de l'avancement de la pièce, il y avait des dessins et je trouvais ça très intelligent en fait, parce qu'on parlait de la vie et il y avait un fœtus qui grandissait jusqu'à ce que ça devienne un bébé. Et du coup, bravo.
Alors, vous parlez des origines de l'humanité dans Néandertal et j'aimerais savoir quelle est la graine qui a germé pour donner ce spectacle. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce spectacle?
C'est la radio.
Ah, c'est nous donc.
C'est vous. Non, c'est vrai, c'est pas des conneries, c'est pas ça pour vous faire plaisir. C'est pas pour vous faire plaisir. C'est la radio, c'est un homme qui s'appelle Jean-Claude Amezen qui a une émission qui s'appelait Sur les épaules de Darwin. Et tous les samedis, il parlait d'un scientifique et d'un chercheur ou d'une chercheuse différent. Et ce samedi-là, j'étais chez moi, j'étais avec mon fils à la maison, je faisais le ménage, et puis j'écoute cette émission, et il parle de ce mec qui cherche à comprendre les origines de l'humanité en lisant dans l'ADN ancien. Et il raconte, et l'émission est hyper poétique, la vie de ce mec, de cet homme qui va dans des grottes et qui arrive en ramassant des poussières à lire de l'ADN. Et je me dis, qu'est-ce que ça veut dire, on peut lire de l'ADN? Je ne sais même pas ce que c'est, je suis nul en biologie, j'étais en panique quand j'étais en seconde, j'étais très très mauvais. Et je me mets à trouver ça très très beau. Et j'entends qu'il y a eu une exposition sur l'homme de Néandertal, suite aux découvertes de cet homme qui s'appelle Svante Paabo, ça s'écrit pas Paabo mais on prononce Paabo en suédois. Et donc je vais au musée de l'homme voir l'émission sur l'exposition sur Néandertal avec mon petit garçon qui a 5 ans à l'époque, et il s'ennuie vraiment fort 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 à l'exposition. Et comme souvent, il préfère qu'on aille à la boutique du musée. Et je lui dis, écoute, on a déjà dépensé de l'argent pour l'expo, on a déjeuné au musée de l'homme, c'est hyper cher. Je voudrais juste un livre, papa, s'il te plaît. Je voudrais juste, ou une peluche. Et on a passé 1h15 dans la boutique du musée de l'homme, alors qu'on avait passé 1 demi-heure dans l'expo.
Vous avez passé moins de temps dans l'expo. Voilà.
Mais grâce à lui, grâce à mon fils et grâce à Jean-Claude Amezen, j'ai passé beaucoup de temps dans cette boutique et je suis tombé sur le livre de Svante Paabo dont avait parlé Jean-Claude Amezen dans l'émission de radio. Et du coup, pendant qu'il cherchait à savoir s'il allait avoir un loup archaïque ou un livre sur la préhistoire, mon fils, moi, j'ai regardé les livres et je me suis dit, tiens, je vais le lire alors que la biologie ne m'intéresse pas. Et on est reparti avec un livre sur la préhistoire qui était bien, un loup en plus, et le livre de Svante Paabo. Et voilà, je l'ai lu et je me suis dit qu'on essaierait peut-être un jour d'en faire un spectacle, et ça a fini par faire Néandertal. C'est donc parti de là.
Donc on peut dire que c'est de par l'ennui de votre fils que vous avez pu...
Non, je rigole, j'aime bien raconter cette histoire. Mais en vrai si je fais pas de blague, cette histoire est vraie, mais ce qui m'a donné vraiment, ce qui m'a déclenché l'envie, c'est qu'en lisant ce livre, alors que vraiment la biologie n'était pas du tout un truc où je me sentais capable de comprendre quoi que ce soit, le livre de Svante, il a cette vertu-là, il s'est écrit comme un roman policier. C'est une enquête, c'est hyper haletant, et je ne comprenais pas une page sur 4, mais les 3 pages que je comprenais me donnaient vraiment envie de comprendre la suivante. Et en dehors de ça, j'ai découvert ça, que dans l'ADN, c'est vraiment comme un livre, c'est comme une encyclopédie qu'on peut lire, et la manière qu'il a eu de raconter, lui, son histoire, m'a donné envie d'en parler, d'en faire quelque chose de plus grand que raconter les histoires de détails biologiques, mais de me suis rendu compte qu'il y avait de la géopolitique possible à l'intérieur de ça.
Je pense que, justement, on a tous eu une première fois qui nous a choqué, quelque chose qu'on a découvert à un moment et qui a complètement changé notre vie. Donc, je m'adresse à vous, le public. Est-ce que vous pouvez nous raconter une fois où un livre, un film, une chanson a complètement bouleversé votre vie, votre vision du monde? J'ai ma collègue juste là qui va vous passer
la parole. Quelque chose de positif, s'il vous plaît. Ils ont transformé notre émission en enquête d'action avec leurs anecdotes sur les gardes à vue. Bonjour.
Oui, moi j'ai une première fois, la première fois où j'ai mis les pieds dans la cour d'honneur. En fait, j'étais en stage pour le Festival d'Avignon et je pose ma valise et quelqu'un me dit, y a un photographe qui va dans la cour, est-ce que ça dit de venir? Et je dis, ouais, ok, d'accord. Et on embarque avec 2 autres stagiaires et on se retrouve dans la cour vide en après-midi, en fin de journée, et il y a Romeo Castellucci qui s'avance sur scène avec des protections et qui dit, bonjour, je m'appelle Romeo Castellucci. Et il y a 12 chiens, des gros molosses qui lui sautent dessus et qui le dévorent, en fait. Et c'est mon première fois dans la cour. On s'est regardé avec mes 2 collègues qui sont depuis devenus des amis. Et c'était, voilà, mon tout premier souvenir. Et je suis encore amie avec ces personnes-là. C'était il y a très longtemps. Et à chaque fois qu'on se rappelle ce souvenir-là, on a vraiment du frisson qui nous parcourt le corps parce que c'était assez incroyable. Le spectacle s'appelait Inferno. Et il était absolument fou. Et je crois qu'il y a une captation sur Arte qui avait faite. Si jamais vous avez l'occasion de le regarder, c'était incroyable.
On a pu assister aussi à quelques spectacles de Castellucci et j'avoue que ces spectacles sont assez puissants, on va dire. David, chaque jour, on joue à un jeu qui s'appelle La Bonne Pioche de Tanzila. Je vais laisser ma collègue Tanzila voir le jeu avec vous.
La Bonne Pioche.
La Bonne Pioche.
Allez, je laisse les micros.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va jouer Bonne Pioche, je vous explique les règles. On pioche, vous piochez un mot, en 45 secondes vous dites à quoi il vous fait penser. On commence, tenez.
lent.
On voit que ça vous procure beaucoup d'émotions, quoi.
Non, c'est vraiment débile. Je suis très très lent pour faire des spectacles. Je mets 3 ou 4 ans entre chaque spectacle, donc je suis très lent, donc je suis très, très, très narcissique. Ce que je veux dire, ça me fait penser à la compagnie lieu dit. C'est une compagnie lente.
Merci pour votre réponse.
Merci David Jezelson de nous avoir accordé cet entretien. Virgile, Sian et Esther, vous restez avec nous.
Et les micros, ils sont à qui?
Ils sont à nous.
On est toujours à Avignon, au cloître Saint-Louis. On va accueillir Pauline Bayle dans cette deuxième partie de l'émission. Et juste avant, on laisse la parole à Mariama.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous n'êtes pas trop fatigués. Aujourd'hui, il fait bon, je pense que ça va. Nous allons entamer une pause qui va commencer par une lecture. Et la lecture, en fait, c'est un texte de Julie Rossello-Rocher, qui est une autrice et qui va nous raconter de quoi parle son texte et le nom de son texte.
Bonjour. Alors, ce texte s'appelle Sarrasine et c'est un texte qui est parti d'un désir de Nelly Pulicani, la comédienne qui va lire l'extrait, qui voulait jouer un personnage de femme sur scène qui ne soit pas, je te cite Nelly, un pot de fleurs, qui soit force de proposition, qui tienne la dramaturgie du texte et qui soit une aventurière. Donc elle avait pensé au départ à Calamity Jane, et puis on voulait quelqu'un qui soit plus proche de nous de manière territoriale. Et elle avait entendu parler d'Albertine Sarrazin. Et là, on est entré dans son œuvre, on a lu tous ses romans, on est parti en road trip sur sa route. Et j'ai écrit un rôle, un texte pour Nelly Pulicani, qui est composé à partir de l'œuvre et de la vie, le parcours de cette femme qui a passé 8 ans de sa vie en prison et qui a écrit l'essentiel de sa vie. Mais de son œuvre aussi en prison, et qui est morte à 29 ans d'une opération mal préparée à la clinique Saint-Roch à Montpellier. Et donc c'est une sorte d'existence, c'est une existence comète dans laquelle elle va écrire 3 romans, dont un best-seller qui s'appelle L'Astragale, qui raconte, dans lesquels elle se met en scène, qui sont des sortes d'autofiction. Et Nelly Pulicani, donc sur le plateau, traverse cette vie et cette œuvre, sachant que l'idée, ce n'était pas d'écrire un biopic, c'était de raconter aussi à travers ce texte dans quelle mesure, pourquoi il avait fait autant écho en nous, cette femme née en Algérie en 1937, et qui était née sous X, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas si sa mère était espagnole ou si elle était elle-même algérienne. En tout cas, sa mère l'a laissée à l'assistance publique. Elle s'appelait Albertine X. Et après, elle a toute une vie d'aventure qui est une vie dont l'émancipation passe par l'écriture, puisqu'elle va se construire une identité à travers sa littérature et devenir la Sarrazine.
Et maintenant, nous allons écouter Nelly nous raconter le texte.
Un jour, elle doit sortir pour passer le bac. L'examinateur la jauge, crie « Suivante !» Alors, tandis que notre élève entre, elle descend très vite les escaliers, arrive dans la cour du lycée, demande la sortie à un ouvrier en train de décharger un camion, il la lui indique d'un geste, elle se dirige fissa vers la porte, tête haute. Elle, c'est Anne-Marie Renoux. Elle est là, boulevard Baille à Marseille. Nous sommes le 11 juillet 1953. Elle vient de s'échapper. Elle a 16 ans. Elle vient de retrouver le soleil. Elle ouvre les yeux. Elle voit, place Castellane, au sommet de l'obélisque qui flotte parmi les nuages, la statue d'une jeune fille. Elle tient sous une main une amphore, sous un bras un navire. Elle regarde loin devant elle, vers la mer, vers Alger. Bonjour Marseille. Anne-Marie Renoux s'en fout qu'on la cherche, que la mère supérieure appelle la police, que les sœurs courent dans tous les sens, que ses copensionnaires la pleurent, la jalousent, la tête pleine de poèmes. ivre de rêve, Anne-Marie Renou, à ce moment, n'a peur de rien. Un type lui propose de monter, elle monte, il l'embrasse, elle se laisse embrasser, il dit « Turin, ça te branche ?»« Non, moi c'est Paris ou rien. »
Merci beaucoup Nelly, merci beaucoup Julie.
À la jeunesse, les micros !
En direct du Festival d'Avignon. Donc on continue la pause avec une pause musicale avec le groupe Nomade. Installez-vous doucement, on vous laisse le temps de vous installer. Donc nous allons retrouver au chant Elodie Lordet, au violoncelle Elisabeth Renaud, au violon Nico Lopez, à la guitare Pierre Lordet et à la batterie François Vinoche.
On écoute quoi ?
On va vous jouer une chanson qui s'appelle « Des oiseaux la nuit ».
J'ai des amis qui vont danser quand vient la nuit, qui prennent le train de minuit et sont heureux. Ils vont pieds nus comme des fakirs sur l'avenue. Ils dansent et vus heureux dans ses pieds nus. On dirait qu'ils volent, et parfois même ils volent comme des oiseaux la nuit. Des oiseaux la nuit. J'ai des intimes qui vont chanter en haut des cimes, des arias tout comme des larmes sur une joue, et leur voix nue se noie dans les nues des sommets. Ils chantent mes corps. Toujours le chant qu'on devient sourd. On dirait qu'ils volent, et parfois même ils volent comme des oiseaux la nuit. Des oiseaux la nuit. On dirait qu'ils volent, et parfois même ils volent comme des oiseaux la nuit. Des oiseaux la nuit. Thank you.
Merci.
Même le chien, il a kiffé.
Même le chien, il kiffe. Même le chien,
il kiffe.
Merci beaucoup pour cette performance. Vous m'avez fait voyager et je me demande pour les autres personnes qui voudraient voyager dans votre compagnie, où est-ce qu'on peut vous retrouver ?
Vous pouvez nous retrouver tous les matins à 10h30. On joue à l'Arrache-Cœur, un théâtre spécialisé dans la musique sur Avignon, dans le Off. Et notre spécialité pour cette création-là, c'est qu'on joue sans électricité. On joue sans micro et on est éclairé avec nos propres bougies qu'on fabrique avec la cire des abeilles de la Drôme. On va jusqu'au bout. Yes.
Voilà, Pierre vous a donné 100 000 et une raisons d'aller les voir. Donc je vous demande encore une fois de les applaudir. En direct du Festival d'Avignon.
À la jeunesse des micros.
Bon, normalement cette fois c'est la bonne, je vais pas me tromper. On est toujours en direct du cloître Saint-Louis à Avignon, avec la jeunesse au micro. Donc là on est en direct avec Pauline Bayle qui est, cette fois je le répète, mais ça vaut le coup, metteuse en scène de la pièce Écrire sa vie, donc, qui est présentée au cloître des Carmes jusqu'au 16 juillet. Pauline, comment ça va ?
Ça va et vous ?
Bah, ça va, super.
Cool.
Donc, pour la première fois, spontanément, ça vous évoque quoi ?
Bah, j'avoue, c'est vaste, quoi. Et en fait, en vous écoutant raconter des trucs un peu dark, ça m'a fait penser un peu à mes premières fois un peu dark. Et bah, du coup, en fait, moi, je me souviens de la première fois où je me suis fait emmerder par un mec. C'était à la piscine municipale. J'avais genre 12 ans. Et j'étais un peu précoce, quoi. Je commençais un peu d'avoir des seins, enfin, mais tranquille, quoi. J'avais 12 ans, quoi. Et le mec, c'était, il devait avoir aussi 12 ans, et franchement, il n'était pas très grand, quoi. Et il m'a attrapé, et il m'a pris les seins, et ça m'a mais choquée. Et je me suis retournée et je l'ai défoncé.
Vous avez bien fait.
Vraiment.
C'est normal.
Mais c'était automatique, normale, en fait. C'était tellement pas, genre, je sais pas, j'étais à la piscine avec mes deux petits frères.
Il arrive de nulle part.
De nulle part, ouais. Et je l'ai défoncé. Il était vraiment, j'avais la supériorité physique quand même, oui. Parce qu'il était pas très grand. Et ouais, voilà. C'est ça.
Merci d'avoir partagé cette première fois avec nous. Et maintenant, on va parler un peu de votre pièce, Écrire sa vie, qui raconte en fait l'histoire d'un groupe d'amis qui vivent ensemble depuis longtemps, qui se connaissent depuis longtemps, mais qui attendent un ami qui n'arrive jamais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça ?
Ouais, en fait, c'est donc six copains qui sont amis depuis vraiment l'enfance et qui partagent un truc d'amitié, mais totalement surpuissant, quoi, qui est vraiment, qui les accompagne, qui les constitue, en fait. Même, ils se définissent, leur identité, elle se définit par rapport les uns aux autres et tout. Et il y a ce septième ami qui est en fait le grand frère d'une des membres de la bande, quoi. Et c'est un peu le grand frère idéal, c'est un peu le héros. En fait, c'est un spectacle qui est basé à partir d'écrits de Virginia Woolf, qui est une autrice anglaise du début du XXe. Et elle avait elle-même un grand frère qui s'appelait Toby, et qu'elle surkiffait, qui était vraiment son modèle, en fait, parce qu'il était hyper intelligent, il était hyper beau gosse, il avait plein de potes qu'il ramenait à la maison. Et en fait, il y avait une sorte de comme ça. En fait, elle s'est vraiment construite à travers l'espèce d'idéalisation qu'elle avait de son frère. Et du coup, on a voulu raconter ça, en fait. Qu'est-ce que c'est quand t'es ado, que t'es hyper, t'es pas complètement sûr de toi et de ça, et tu poses le regard sur quelqu'un qui est plus grand et que tu vois vraiment comme un héros. Bon, en plus, ça, c'est un garçon, et c'est vraiment le héros, quoi. C'est vraiment la personne idéale, et t'as l'impression que pour lui tout est simple et que pour toi tout est compliqué. Et on voulait raconter ça, ouais, dans la première partie du spectacle, quand on attend qu'il revienne, ouais.
Et est-ce que vous avez été confronté à la perte d'une personne, que ce soit une personne décédée ou une amitié ?
Ouais, ça c'est intime comme question. Ouais, j'ai fait face à des... Bah, parce qu'en fait, ouais, c'est comme tout le monde, en fait, tu as des trucs dans la vie qui t'arrivent, et en fait... c'est un peu genre, tu vois, quand t'es petit, t'as l'impression que ta vie, ça va être... que tu vas jamais mourir, en fait, que la mort, ça n'existe pas, qu'il n'y a que l'imaginaire et les jeux et que tu es libre, en fait. Et puis, à un moment dans ta vie, tu prends conscience que, bah, en fait, non, l'endroit où tu es né, ça vient de poser des limites parce qu'en fait, tu n'as pas pu faire d'études. Parce qu'en fait... Et puis aussi parce qu'il t'arrive des merdes, quoi. Et comme perdre quelqu'un comme ça d'un jour à l'autre. Et en fait, tu ne peux pas... Tu peux pas être préparé à ça, en fait. Il faut que tu trouves comment faire face par toi-même. Et c'est un peu ça ce qu'on voulait raconter, quoi.
Ben merci. Moi, j'avais... Enfin, déjà, je voulais vous dire merci parce que j'ai eu votre pièce, j'ai bien aimé. J'ai aimé le fait qu'on soit aussi un peu dans le spectacle et tout ça. J'ai bien aimé. Et j'avais une question par rapport à tout ça. Est-ce que vous vous souvenez de votre première fois où vous avez écrit une pièce de théâtre?
Ah ouais, la première fois j'ai écrit une pièce de théâtre. Oui. Ouais, c'est je venais en fait moi donc je fais du théâtre depuis que je suis toute petite vraiment c'était mon truc et tout puis un peu pour enfin je sais pas, j'ai pas osé faire direct du théâtre après mon bac. Donc j'ai fait des études un peu sérieuses et tout et en fait après cette étude, j'ai dit vas-y, j'avais fait une école de théâtre et donc j'ai été prise dans une école de théâtre, j'étais trop contente et je me suis dit en arrivant dans cette école, allez, je vais faire un truc que j'ai envie de faire depuis toujours. J'attendais tellement ce moment depuis genre des années. Je me suis dit, je vais faire un truc que j'ai jamais fait et j'ai écrit une pièce. Je suis allée au bout d'un truc, j'avais écrit un peu des bribes, de machin, de bidule. Et là, je me suis dit, vas-y, tu le tentes le truc. Et j'ai écrit ma première pièce qui s'appelait Attire-d'elle et qui racontait l'histoire de 5 frères et sœurs. Voilà.
Super. Est-ce que quelqu'un a une autre pièce?
Oui. Est-ce que le théâtre, ça vous a permis de prendre confiance en vous?
Oui. En fait, ça m'a permis surtout d'accepter que j'aurais jamais confiance en moi et que c'est pas grave. C'est ok de se sentir fragile et vulnérable. C'est pas grave en fait que c'est on peut avoir confiance dans sa fragilité en fait.
Mais ça se voit pas du tout avec l'énergie que vous mettez dans le public. Ça se voit pas du tout avec l'énergie que vous mettez dans la parole, votre gestuelle, votre présence. On ne dirait pas du tout que vous avez peur.
Ah ouais, bah pourtant j'ai mon cœur qui bat plus fort et tout. J'ai peur de dire un truc. Vous allez me juger ou pendant que je vous parle.
Vous entendez quelque chose? Un téléphone?
Je crois qu'on a Benoît Hamon, en fait, qui nous appelle, directeur général de l'ONG Singa.
Allô?
Est-ce qu'il va nous... Ah. On vous entend pas trop.
Est-ce qu'on a pas un petit problème technique?
Le micro.
Ouais, et un petit problème technique.
Vous
entendez
là? Non, vous inquiétez pas, c'est de l'autre côté.
On a un problème, 2 minutes.
Oui.
2 petites minutes.
On vous entend pas.
Alors, attendez, c'est qui Benoît Hamon? Quelqu'un peut me dire qui c'est Benoît Hamon?
C'est branché. Alors, quelqu'un connaît Benoît Hamon?
Madame, est-ce que vous voyez qui c'est Benoît Hamon?
Oui, non, tout à fait, oui.
Ah. Qui est-ce?
C'était un homme politique de gauche qui maintenant a une association qui s'appelle Singa.
Ah, ah, super.
Ok.
Alors,
bonsoir à tous.
Oui, bonsoir Monsieur Hamon, c'est Brenzy et Fatou à l'appareil. On est en direct.
Bonsoir Fatou.
On est en direct du Festival d'Avignon, du coup au cloître Saint-Louis. Dites-nous, Monsieur Hamon, comment allez-vous? Ça va?
Ça va, là, moi je suis au plein cœur du Morbihan, Bretagne.
D'accord.
Il y a plein de bestioles autour de moi, mais tout va bien.
Nous aussi, on est entourés de cigales, tout va bien, tout est nickel. Ouais,
et festivalier aussi.
Vous êtes en vacances?
Depuis aujourd'hui.
Très bien. Ah, la chance, ouais. La chance. Oui, alors, c'était ma question. Je vous passe pas tout.
Bonjour. Alors, en quelques mots, pour ceux qui du coup ne vous connaissent pas bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi du coup consiste Singa?
Singa, c'est une ONG, une organisation non gouvernementale qui est dédiée à l'inclusion des personnes réfugiées en Europe. On est actif dans 22 villes et on accélère l'inclusion de ces personnes qui arrivent donc sur le territoire européen parce qu'elles fuient. Une oppression, un conflit armé, des persécutions. Et quand elles arrivent et qu'elles obtiennent l'asile, nous, on accélère leur inclusion, notamment en les aidant à créer des entreprises et en les aidant à créer des liens avec ce qu'on appelle les locaux, c'est-à-dire ceux qui habitent déjà en Europe. Ça peut être vous, ça peut être n'importe qui en Europe. Et c'est autour de ces liens et de cet accompagnement de l'entrepreneuriat qu'on permet à plusieurs centaines de réfugiés chaque année de créer leur propre entreprise ou leur association. Voilà, c'est ça notre travail.
D'accord, ok. Petite question, vous qui êtes une personne qui n'est pas forcément dans le besoin, entre nous, c'est pas un peu suspect de vouloir aider les gens en difficulté? Pourquoi ce
J'ai pas compris après besoin.
Pourquoi ressentez-vous ce besoin d'aider les autres?
Pourquoi je ressens ce besoin d'aider les autres? Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se pose. Moi, je pense profondément qu'une société où les gens ne coopèrent pas et ne sont pas solidaires, ça ne tient pas. Quoi. Et je n'ai jamais cru que une société inégalitaire ou celle qui se fermait, qui était close, étaient des endroits ou des sociétés dans lesquelles on pouvait s'épanouir. Donc c'est un peu, j'essaie d'appliquer à ma vie professionnelle ce en quoi je crois, c'est-à-dire la coopération, l'inclusion, la création de liens. Donc j'ai la chance de faire un métier qui me plaît, qui me réjouit. Ce qui est un privilège, hein, d'arriver à faire un métier qui correspond à ce à quoi vous croyez.
D'accord. Là, une question un peu plus simple, du coup. Alors, pour la majorité d'entre nous autour de la table, c'est le Festival d'Avignon, c'est la première fois pour nous qu'on parle devant beaucoup de monde. Du coup, j'aimerais savoir pour vous, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez parlé devant une grande foule?
La première fois que j'ai parlé devant une grande foule, c'était, j'avais 20 piges, 20 ans, et j'étais déjà un militant politique. En fait, il y avait des grèves étudiantes, des grèves dans les universités à l'époque. C'était en 1986, ça remonte à loin. Et on manifestait parce qu'à l'époque, le gouvernement voulait rendre l'université très chère, et si chère qu'on estimait que ça allait finalement fermer les portes de l'enseignement supérieur à beaucoup de gens issus de milieux modestes. Et donc, on a manifesté contre ça, on était nombreux. Et la première fois que j'ai parlé devant une foule, c'était à l'occasion d'un concert qu'on avait organisé dans ma ville, à Brest. Et voilà, je me suis retrouvé avant le concert à parler à cette foule. Et j'ai trouvé ça à la fois extrêmement stressant et en même temps très grisant. Il y a un mélange à la fois de peur et d'excitation, quoi.
Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps.
Merci beaucoup, monsieur.
À bientôt, au revoir, portez-vous bien, bon festival.
Merci.
Salut, ciao, ciao.
Malheureusement, on va devoir dire au revoir à Virgile et Siam. Est-ce que peut-être vous avez un mot à dire avant de partir?
Moi, je me suis bien amusée dans ma première émission en direct. Et voilà, je voulais remercier de m'avoir conviée à côté de vous. Voilà.
Merci. Première radio, c'était super. Très bonne ambiance et merci de nous avoir accueillis.
Merci à vous.
Allez, retour au
collège. Soyez pas triste de nous quitter. Hein. On va se revoir. L'association de Benoît Hamon, en fait, m'a fait penser à une histoire, une anecdote que j'aime bien raconter aux gens que je connais pas. C'est la première fois que je suis arrivée en France. En fait, tout était bizarre pour moi. Déjà, il faisait gris, moche, alors que je sortais du soleil, il faisait beau. Et là, déjà, premier choc, je prends l'escalator, des escaliers qui bougent, je panique, c'est pas grave, je sors de l'aéroport. Et là, je vois une personne blonde aux yeux bleus. Je me suis dit, oula! Est-ce que les livres prennent vie devant moi? Parce qu'en fait, juste avant, j'avais lu Les Boucles d'Or avec les trois oursons. Et là, je vois une personne qui ressemble exactement à la boucle d'or. Et je me suis dit, où sont les ours pour que je les vois? Peut-être que je suis dans un livre, je vis dans un livre.
Alors moi, ça me fait penser du coup à la première fois où je suis partie dans mon pays d'origine, donc la Côte d'Ivoire. La toute première fois que je suis arrivée là-bas, c'est plutôt arrivée au village qui est là-bas. Je sors du car, toute contente de voir ma grand-mère pour la première fois, vraiment toute fraîche, toute joyeuse. Et là, mon plaisir a vite été stoppé. J'ai mis mon pied, du coup, dans du caca, voilà. Qu'on se le dise très clairement. Mais ça ne s'arrête pas là, sinon c'est pas drôle. On continue, on avance pour dire bonjour du coup aux gens qu'il y a dans ce village-là. Et je ne regarde pas où je marche et je remets le même pied dans une mixture de... Je ne saurais même pas vous expliquer ce que c'était, mais vraiment, j'en ai encore des frissons, ça me dégoûte, voilà.
Tu m'as refilé tes frissons.
Alors moi, je vais vous raconter une histoire qui est un petit peu moins drôle. C'était la première fois que, dans le public, c'était la première fois que j'ai entendu des coups de feu. Alors moi, j'ai fait une partie de mon enfance en Centrafrique, République centrafricaine, je ne sais pas si vous connaissez. Et je me rappelle à ce moment-là, le président qui était au pouvoir, c'était François Bozizé. Et c'était un gouvernement qui était très corrompu, donc il y a eu des rebelles, il y avait un mouvement rebelle qui s'approchait de la capitale. Et moi, à ce moment-là, j'étais encore en primaire. Et j'étais avec, avec une cousine à moi, et à la radio, on entendait tout le temps, oui, les rebelles se rapprochent de la capitale, ils ont pris tel village, ils ont recruté des gens, et ils s'approchent. Et nous, on était des enfants, donc on ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Et je me rappelle à l'époque, on avait des DVD des films Rambo, et donc on le regardait tout le temps, et dedans, Rambo, il tuait une personne, il prenait une personne, il la balançait sur une autre. Et donc moi et ma cousine, on était en train de jouer. Et elle me disait, s'il y avait eu un rebelle qui arrive, elle va lui mettre un coup de poing, récupérer son arme, tirer sur les autres. Moi, je dis, s'il y en a un, je lui brise le cou comme dans les films. Et c'est là qu'on entend les coups de feu, les premiers coups de feu. Papa. Et là, tout de suite, je pense que ma cousine a réalisé avant moi. Elle s'est mise au sol. Elle a commencé à crier. Elle était en panique. Et moi, je ne ressentais rien. Et là, on entend, papa. Et là, d'un seul coup, on voit ma grand-mère qui sort de la maison et qui court vers nous et qui nous emmène avec elle. Et on a dû tous se rassembler ensemble, éteindre les lumières et tous se coucher au sol. On est resté comme ça pendant environ une dizaine d'heures pour savoir ce qui se passait un peu à l'extérieur. Et dès qu'on s'était un peu réveillé, je me rappelle à l'époque, on avait une belle maison et il y avait les voisins qui étaient venus chez nous et qui nous avaient dit, comme on avait de belles maisons, il fallait qu'on les quitte parce que les rebelles pouvaient venir les chercher. Donc on a dû quitter notre chez nous et finalement au fil du temps j'ai pu venir en France et voilà.
Merci Robespierre. Esther.
Bonne ambiance.
Ouais. Esther, Pauline, vous avez une dernière anecdote à nous raconter, une petite anecdote?
Il a déjà plombé l'ambiance donc ouais. Je pense que vous pouvez faire mieux. Hein.
vas-y si t'as une idée. Non mais j'ai rien en tête là tout de suite mais.
Dans le public, est-ce que vous avez des premières fois, on va vous redonner la parole, est-ce que vous avez des premières fois à nous raconter quelque chose de farfelu, de spécial, de drôle? Vous, monsieur, vous m'avez l'air très drôle. Tenez.
Je sais pas si je suis super drôle, mais en fait, votre histoire de première fois, elle est très jolie depuis le début, et je me suis demandé si à un moment j'ai le micro, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et en fait... Plus on vieillit, plus on a des premières fois qui s'additionnent. Et en fait, il y a 15 mois exactement, j'ai eu une première fois, j'ai eu un enfant et je suis devenu papa. Et depuis, en fait, c'est que des premières fois. Et c'est la première fois où il s'assoit, c'est la première fois où il essaye de dire un truc qui ressemble à papa. Enfin, il a dit tortue en premier, je sais pas. Et voilà, et donc en fait, maintenant, j'ai transféré toutes ces premières fois et c'est aussi ma première fois. Donc, en fait, ça m'a beaucoup ému. Et ce que j'ai vu là, je me suis dit, si un jour il fait partie d'une petite bande comme ça, je trouve ça cool. Voilà.
C'est trop mignon.
Merci.
Merci d'avoir partagé cette histoire très attendrissante avec nous. Vous, une première fois.
Je ne vais pas raconter ma première fois ici à Avignon. Et puisqu'a priori, on l'a déjà beaucoup entendu, qu'est-ce que je pourrais raconter ma première fois avec vous? Par exemple, j'ai rencontré Brandy et ton prénom, j'ai oublié.
C'est Elia.
Elia, merci beaucoup. Et du coup, en fait, on devait aller à l'Utopia pour faire un reportage qui, a priori, on avait manqué la séance. Et finalement, on a réussi à y aller. On a presque même posé des questions, puisque du coup, effectivement, presque, puisqu'on a assisté à une heure et demie de rencontre avec Frédéric Weissmann et Juliette Délégué. Et au bout du compte, la question n'a pas été posée. On a été juste interrompu avant la fin.
En même temps, chaque question a duré une heure. Même il a piqué du nez à la fin. Donc,
donc on a passé beaucoup de temps à l'Utopia. Et c'était aussi ma première fois à l'Utopia avec vous, d'ailleurs.
Ouais, c'était sympa.
Merci d'avoir partagé cette histoire avec nous. Je redonne la parole.
Moi, j'ai peut-être trouvé un truc. Bon, alors, c'est vraiment pas grand-chose. Mais là, depuis un mois, je travaille. Enfin, je suis serveuse dans un bar Place Pie. Et j'ai eu ma première anecdote un peu marrante à raconter par rapport à ce staff-là. C'est qu'une fois, je débarrassais la table. Donc, il y avait des enfants et des parents qui étaient là juste avant. Donc, je débarrasse et je vois un truc un peu blanc, bizarre, qui traîne. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Donc, je pousse avec une serviette. Et je le retourne et je vois qu'en fait, tout simplement, un enfant a oublié sa dent.
Oh.
Voilà. Donc voilà, un enfant qui, a priori, a perdu sa dent pendant le repas et qui l'a laissé sur la table pour notre plus grand plaisir. Et donc, c'est ma première anecdote par rapport à ce job. Et voilà, je la trouvais marrante.
Et vous, Pauline Bell, votre première fois à Avignon ?
Alors, ma première fois à Avignon, c'était avec Iliade, un spectacle que j'ai mis en scène qui était une adaptation de l'Iliade d'Homère. Et c'était en 2016 dans le Off. Et franchement, c'était la guerre, quoi. Fallait qu'on monte le spectacle en 20 minutes, qu'on joue en 1h20 et qu'ensuite on nettoie tout. C'est un spectacle où le plateau est assez crade après. Et c'est formateur, quoi. Mais c'était intense.
Merci beaucoup. Donc on peut toujours retrouver Pauline Bell avec son spectacle Écrire sa vie au Cloître des Carmes jusqu'au 16 juillet. Et j'en profite aussi pour dire qu'il y a les Sarrasines de Julie Rossello qu'on a eu tout à l'heure avec Nelly Policani dans la mise en scène de Lucie Rébéret, les jours pairs à 15h05 au Théâtre du Train Bleu.
Avant de...
Et les micros, ils sont à qui ? Ils sont à nous !
En direct du Festival d'Avignon.
À la jeunesse !
Merci à tous et à toutes. Ça parle. Merci à tous et à toutes. On était en direct.
Il y a la bonne pioche.
Mais non !
Il y a Tandy là ?
Oui ou non ? Mais pourquoi vous me dites... Ok, je me rassois, c'est bon, c'est pas pour maintenant. Je vais vous tuer, vous m'avez fait la honte.
Donc, on va tout de suite faire la bonne pioche avec Pauline avant qu'elle s'en aille.
Esther aussi, tu pourras piocher juste après.
Eh bien, nous revoilà. Hein.
Alors, faut que je dise le mot que j'ai pioché, c'est ça ?
Oui.
Le mot que j'ai pioché, c'est frêle. Et ben, frêle, ça va me faire penser à une des actrices du spectacle que j'ai mis en scène, qui est dont le personnage et même qui elle est à la fois d'une très grande fragilité et qui a quelque chose de très gracile et fin et qui en même temps est traversée par des colères et une rage beaucoup plus grande qu'elle. Et quand on la voit comme ça, on se dit que c'est vraiment quelqu'un de très gentil, de tout frêle. Et en fait, au fil du spectacle, il y a un tsunami à l'intérieur d'elle, quoi. Et voilà, donc ça me fait penser à ça, frêle.
Merci. Et vous, madame ?
Oui, alors comme je suis moyennement à l'aise avec le direct, j'ai essayé de piocher en avance pour essayer de préparer. Donc j'ai pioché Parc. Ça ne m'a pas du tout aidé de piocher en avance parce que je n'ai pas du tout réfléchi. Parc.
Nature,
oui.
J'essaye d'aider là.
Oui, merci. Non, parc, ça me fait penser. Moi j'habite à Paris, donc je suis dans le quartier de la Chapelle, qui est un quartier vraiment hyper. Un peu hyper pourri, on va dire, c'est un peu crackland. non, mais pour sans mentir. Mais ce qui donne un peu du baume au cœur là-bas, c'est que, mine de rien, c'est en train de changer. Moi, depuis ma fenêtre, je voyais un parc. Et donc, ça a apporté un peu de joie dans ma vie, dans ce quartier un peu morose. Voilà.
Voir un peu de nature.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Les micros. Les micros.
Les micros. Les micros.
Ils sont à qui ?
Ils sont à qui ?
Ils sont à qui ?
Ils sont à nous !
Merci à toutes et à tous. On est en direct au Cloître Saint-Louis, au Festival d'Avignon. Vous pouvez réécouter l'émission dans plusieurs villes de France sur le réseau des radios campus ou sur de nombreuses radios associatives à Perpignan, Marseille, Lille, Grenoble, Bastia, Lorient, Embrun, je ne savais même pas que ça existait, et dans un tas d'autres villes. Le programme de demain, c'est une émission consacrée à la transmission. On recevra Gwenaëlle Morin, Laure Adler, Augustin Trapnard et plein d'autres invités demain 19h au Cloître Saint-Louis. Bonne soirée.
À la jeunesse, c'est le micro.
Yeah.
South Africa. Dupes and Jews from the St. Jude clan. Scared of life, better take my hand. Don't take shit from a woman, man.